On va aborder un type de paysage qui, au fond, n'est probablement pas tellement différent. Il est différent dans sa nature, bien sûr, dans son organisation, mais dans la façon dont les gens le perçoivent, n'est peut-être pas tellement différent de celui qu'on avait abordé lors de la dernière séance. Et en outre, le son y joue un rôle important, et pour ceux d'entre vous qui avaient assisté à mon cours où j'avais parlé du paysage sonore et qui avaient été frustrés parce que précisément les enregistrements n'étaient pas passés, vous pourrez être satisfait puisque j'en ai reconnu en particulier un que j'avais sélectionné de Steven Feld, qui est le travail du sagou, enfin comment on bat le sagou, que je trouve très, cette femme chante très bien d'ailleurs. Alors aujourd'hui, donc, pour parler de ce paysage, c'est un paysage de la Nouvelle-Guinée, des hautes terres de la Nouvelle-Guinée, auprès du Mont Bozavi, qui est une des régions les plus dont le degré de biodiversité est l'une des plus élevées au monde. Et on a le plaisir de recevoir Florence Brunois, qui est chercheure au CNRS et qui est une spécialiste des voisins de ces gens que j'évoquais à l'occasion de mon cours sur le paysage sonore de Steven Feld, qui s'appelle des Kassois. Les gens chez qui travaillait Steven Feld sont les Kalouli, donc c'est des deux groupes voisins dans cette région. Et vous verrez que la façon dont le paysage sensible se déploie pour les Kassois est assez présente, évidemment, des similitudes avec la façon dont il se déploie pour les Kalouli. Alors, Florence Brunois a fait depuis de nombreuses années des recherches. Elle arrive d'ailleurs du terrain depuis il y a quelques jours. Et elle a fait un travail que je trouve tout à fait original, en ce sens qu'elle a étudié les différentes populations qui peuplent le monde occupé par les Kalouli, par les Kassois, pardon, en ne faisant pas une distinction de principe entre les plantes, les animaux, les esprits, les humains, etc. Elle les a tous traités sur le même plan. Hein, et elle a donc fait une sorte de sociologie générale de ces différentes populations selon les critères que les Kassois eux-mêmes adoptent pour concevoir la manière dont leur cosmologie est organisée. Et ça, c'est une façon très originale de procéder. Je crois que c'est la première fois qu'on a fait ça de façon aussi systématique. Et je pense que c'est aussi un peu de cela que Florence Brunois va nous parler aujourd'hui.
Merci. Ça marche ? Il marche ? Oui. Merci, Philippe, de m'accueillir. Oui, de retour de Nouvelle-Guinée, de cette forêt. Et je suis émue parce que, en fait, là, je vais vous faire partager des expériences que j'ai vécues récemment. Donc, comprendre le paysage chez les Kassois est loin d'être une évidence. Les questions se bousculent sur le sens à donner, bien sûr, au concept paysage. D'où la thématique des leçons de Philippe Descola et comment ne pas trahir la perception qu'ont les autres en leur projetant une notion qui n'est pas la leur et en même temps qui serait donc le paysage tel que accepté en Occident. Et donc les questions se bousculent et cet exposé fait suite à une réflexion sur la figuration aussi, en général, que j'avais essayé d'aborder l'année dernière en essayant de montrer les processus mis en exergue dans les modes de figuration chez les Kassois. Et à cette occasion, enfin grâce à cette réflexion, j'avais isolé le processus d'abstraction du type, les mêmes processus que l'on rencontre aussi dans l'art, dans la naissance de l'art moderne et l'art abstrait, sauf que le résultat est bien sûr pas le même, dans la mesure où on ne retrouve pas des figurations au sens strict du terme chez les Kassois. Donc, le titre de ma conférence s'intitule « Des sons, des mouvements, des relations ou de l'éphémère, des paysages en Nouvelle-Guinée ». C'était un bon début, mais comme je vous le signalais, lors de ce dernier terrain, j'étais très attentive, sachant que j'avais participé de ce séminaire, sur leur appréhension éventuelle d'un paysage. Et donc, je scrutais leur regard. J'ai énormément marché, en fait, j'ai fait que ça, pendant tout mon terrain, expressément, pour être avec eux, avec différents groupes. Je suis passée de clan à clan, parce que chacun a un territoire précis, et une physiologie géographique différente. Et donc, je voulais scruter les émotions et comment ils appréhendaient leur environnement pour voir s'il y avait bien un processus qui pouvait amener à parler de paysage au sens qu'à soi du terme. Donc la question du paysage est donc complexe pour l'anthropologie. Beaucoup de livres collectifs ont été dédiés à cette question. Les concepts fusent et se mélangent. On parle, enfin, surtout en anglais, de place, de space, enfin, d'espace, donc de lieu, d'emplacement, de territoire, bien sûr, de terre. Les approches sont différentes et mon approche s'inspire effectivement de mon terrain, mais aussi des textes qu'a écrit Stephen Feld, dans la mesure où il s'appuie lui aussi sur les processus pour comprendre comment chez les Kaluli on peut trouver une sorte de paysage qu'il décrit comme des soundscapes, hein, des paysages sonores. Et il a pu montrer qu'il y avait une sorte de... Enfin, ce qu'il appelle groove, hein, c'est un musicien de jazz à l'origine, Stephen Feld. Donc, il s'inspire beaucoup du vocabulaire musical. Et il a montré que chez les Kaluli, il y avait effectivement des archétypes sonores, de production de sons, une acoustique sonore, qui faisait paysage. Il y a 4 ans, je suis allée chez les Kaluli. Donc, ils sont non seulement les proches voisins des Kaswa, mais les Kaswa sont pour 90% originaires des Kaluli. Et l'environnement des Kaluli est absolument différent quand même de celui des Kaswa, dans la mesure où, du fait de leur forte démographie, la forêt a reculé. Et il ne reste que une forêt en haut du volcan. Et j'ai constaté quelque chose d'assez extraordinaire que j'avais compris à travers les lectures des travaux de Stephen Feld, mais pour le vivre, c'était que les Kaluli ouvraient un essart de telle manière, choisissaient le site. Bon, bien sûr, c'est le plus opportun, entouré d'une rivière pour éviter que les cochons viennent, etc., etc. Mais il y avait un autre critère qui participait au lieu exact où ils allaient ouvrir un jardin. C'était de séparer les niches écologiques des paradisiers. Ainsi, quand ils travaillaient dans leur jardin, ils entendaient les paradisiers chanter en écho. Et l'écho est quelque chose de fondamental dans l'esthétique Kaluli. Et bien sûr, on va la retrouver chez les Kaswa aussi. D'où ce terme de paysage sonore, dans la mesure où l'acoustique est vraiment indissociable du visuel. Et je vais revenir là-dessus, bien sûr. Donc, les questions aussi est de savoir cette relation entre paysage et figuration. Est-ce que cette figuration doit être figurative ou bien abstraites. Je vais essayer de montrer par quel processus que j'ai donc qualifié d'abstraction, les cassois effectivement produisent du paysage. Et je pèse mes mots en disant produire du paysage. Mais pour ce faire, je vous ai fait, enfin j'ai fait, c'est en fait le même diaporama que j'avais fait pour essayer de saisir l'esthétique cassois et leur manière d'évoluer en forêt. J'y ai rajouté du son, mais bon, ça n'a pas tellement bien marché. Pour vous restituer l'environnement dans lequel se situent ces individus et moi-même, quand je suis sur le terrain. Pour comprendre la complexité de la question de paysage dans ces termes. Je lance, alors attendez, je vous mets une petite musique d'ambiance.
Thank you.
l'occurrence. Je vous ai présenté cette avalanche d'images, de photos, prises de différents points de vue, macro, généralement beaucoup macro, pour vous restituer la complexité du milieu dans lequel ces individus évoluent, pour vous montrer aussi combien, bien sûr, le pouvoir de la vision est limité dans la profondeur, comme dans toute forêt tropicale. Le champ est donc limité, arrêté par l'arborescence des plantes. Ça peut paraître confus à prime abord, mais ça ne l'est pas du tout quand on est intégré à ce milieu et que l'on renonce précisément à voir pour laisser place à l'audition. C'est en écoutant que l'on marche et que l'on voit davantage qu'en se concentrant sur la vision, car sinon on est en phase et en face d'une complexité de couleurs, de formes, de structures qui rend la vision trouble. Donc la question se pose de savoir comment de cette complexité un paysage est susceptible de naître. On l'a vu, l'environnement est signe d'une extraordinaire diversité, des affordances, des formes, des structures, des couleurs, des odeurs, des mouvements aussi. Une densité accentuée par la dimension invisible qui constitue de fait la profondeur de champ du paysage kassois. En effet, selon cette population, selon la cosmologie kassois, la forêt phénoménale que j'ai pu photographier se double d'une forêt invisible similaire, mais habitée par des esprits qui revêtent également la forme humaine, mais qui est invisible à l'œil nu. On y accède, enfin, tout Kassois y accède durant le rêve, et il existe des êtres d'exception, donc des médiums chamans, c'est-à-dire les deux possibilités sont offertes à ces individus, à savoir que les esprits viennent en eux, ou eux, leur double cosmologique va chez les esprits. Il y a ce double mouvement que connaît également tout individu. Hein. Son double va chez dans le monde des esprits, à la différence près que quand ils évoluent dans ce monde des esprits, qui est la forêt, ils se métamorphosent en animal. Et les esprits qui interviennent dans le monde phénoménologique interviennent également sous forme animale. Donc, cette invisibilité est toujours recherchée dans le visible. C'est pour ça que j'appelle ça le vrai profondeur de champ du monde. Car parfois, des signes se lisent. Parfois, l'invisible devient visible. D'où une attention toujours extrême qui passe à nouveau par l'audition plus que par le visuel. C'est-à-dire, on va marcher, on entend un craquement d'arbre, ce qui pourrait être banal, mais en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un arbre banal. Et donc, on va supposer que c'est l'esprit qui habite dans cet arbre qui est en train de claquer la porte de sa demeure. Ou alors, On va recevoir soudainement ce qui est arrivé durant mon dernier terrain, des sortes de petites pierres qui vous tombent sur la tête, alors que c'est, l'arbre n'est pas en, enfin, y a pas en fructification, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Et là, il s'agissait d'un esprit qui nous taquinait, parce qu'on approchait un lieu qui privilégiait, qui préservait, etc. Et il craignait qu'on vienne détruire son site. Donc, on reçoit des pierres. Bon, là, en l'occurrence, ça touche, ça fait mal. Donc, l'invisible peut devenir visible et laisser des traces aussi de sa présence. Récemment, un cassois du nom de Keseyo est décédé. Et cet homme était considéré comme un homme très très fort, c'est-à-dire vraiment l'homme de la forêt, très puissant, physiquement. Or, il est apparu qu'il est décédé suite à une petite morsure de cochon sauvage, enfin de sanglier. Or, généralement, quand un sanglier attaque un humain, il va quand même arracher un peu plus que juste une morsure. Il va arracher la peau. Et généralement, les humains ne décèdent pas d'une telle attaque. Ils arrivent à revenir chez eux ou aller chez quelqu'un d'autre. Or là, Keseyo avait juste cette petite trace, cette trace de dent à la cheville. Mais en plus, il avait laissé son arc et ses flèches acculé à un tronc, et il était parti juste avec sa machette. Or, ce n'est pas une pratique traditionnelle ou normale d'aller chasser un cochon avec juste la machette. Normalement, on tire à l'arc. Bon, alors, quoi qu'il en soit, hein, il meurt, on le retrouve le lendemain, enfin, 6 heures plus tard, enfin, oui, le lendemain matin, très tôt. Et son corps était... on ne reconnaissait pas son corps. C'était horrible. Mais de surcroît, on a suivi les traces. Et en haut de la petite colline, où on voit ces traces, il y avait, enfin, je veux dire, pas une prairie, parce qu'il n'y en a pas, mais il y avait beaucoup d'herbes, hautes herbes, etc., des buissons. Et tout était écrasé, comme s'il y avait eu une bagarre de titans, au point que les cassois se sont dit que ce n'était pas un cochon. Et ils ont mené une enquête, ils ont retrouvé des traces étranges. Même si tout le monde a constaté que c'était la première fois que ça arrivait de l'histoire des cassois, dans l'histoire des cassois, de mémoire d'homme cassois, la seule possibilité était qu'il s'était battu avec un esprit, mais un esprit d'un autre genre. Donc le territoire cassois, le monde invisible, s'enrichit aussi actuellement de nouveaux esprits. Donc il y a des traces de l'invisible dans le visible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le visible est aussi invisible. Tout est très fugace, soudain. La rencontre avec un animal est opportune. À moins, bien sûr, de faire de la chasse à l'affût, c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Mais quand vous marchez en forêt, vous n'avez pas rencontré tous les animaux. Pourtant, il y a plus de 350 espèces animales. Alors, vous les entendez, là aussi, mais ils sont invisibles. Vous entendez les oiseaux, les paradisiers. Vous savez pertinemment qu'en haut de la cime, il va y avoir un couscous ou un marsupial, etc. Mais tout est quasiment invisible. Et leur rencontre est donc fugace. Donc la visibilité est soudaine. Et la vision est trouble parce que c'est toujours en mouvement. Donc, que ce soit les esprits ou les êtres vivants, leur présence et absence, peut être absence aussi. Et les Kassois participent pleinement de cette intermittence. Car en fait, il s'agit bien, si on devait prendre une métaphore, d'une mise en scène, où en fait tous les acteurs sont vraiment des intermittents. Car selon la pluie, selon la saison, selon le jour ou la nuit, l'heure de la journée tout simplement, tous ces êtres vont jouer une performance absolument originale et unique, car singulière. Et cette performance va être cette mise en relation de tel paradisier qui sera là à cet instant-là, peut-être d'un wallaby qui va traverser, du vent et de l'humain, des humains qui participent, traversent également ce contexte espace-temps. Mais on ne peut être dans la répétition et pourtant, les Kassois répètent leurs gestes dans la mesure où ils n'ont pas une tendance à vouloir s'affranchir du cycle de vie et de mort que prône la forêt tropicale et qui a un pouvoir omnipotent. Tout ce qui meurt se décompose à une rapidité extraordinaire et se retransforme. Un fruit... avec pourtant une épicarpe très très dure, donc un fruit complexe peut sortir, il suffit quelquefois de 2 jours, ou alors par le biais du cassoir qui l'avale, etc., dont le système digestif va permettre l'éclosion de l'épicarpe. Mais dans ce milieu, la vie et la mort sont liées par un processus de vitesse extraordinaire. Ce qui fait que laisser des traces est très difficile. Et d'ailleurs, les Kassois ne cherchent pas à laisser des traces. Au contraire, il cherche à se fondre dans le paysage. Bon, d'une part, parce qu'ils sont liés à une relation de vie et de mort également avec les esprits, c'est-à-dire quand un Kassois chasse, et s'il s'avère que l'animal qu'il a chassé était un esprit, donc l'esprit va se venger et va tuer le chasseur ou s'attaquer à son enfant. Donc, moins les Kassois révèlent leur présence au monde ou leur atypisme au monde, plus ils sont en sécurité. Et cela va jusqu'à un point ultime quand ils sont en haut du volcan, qui appartient, qui est le territoire attitré des esprits Sosouk, qui sont les plus dangereux, les plus menaçants. Les Kassois parlent la langue des Sosouk. Donc les Kassois ont inventé un langage pour substituer le langage de l'humain Kassois, et pour que les Sosou ne le reconnaissent pas. Donc, ils se fondent une culture matérielle très éphémère. Généralement, quand on part, même pendant un mois, on n'amène que son arc et ses flèches. Et on trouve tout sur place et on abandonne tout sur place, comme ferait l'oiseau jardinier ou un cochon ou un cassoir. Et ce fondu, hein, j'utilise expressément hein, la fondu pour jouer par rapport à la visibilité, à la lumière, s'étend à la sémantique, dans la mesure où le corps et les substances sont traversés par les mêmes mots que ceux qui traversent un arbre ou un animal, ou même un minéral. Un bras, une branche, une patte se disent de la même manière. Un cassois peut porter le nom d'un oiseau peut porter le nom d'un humain. On ne sait plus qui porte qui ou à qui on a emprunté. Et c'est très important de saisir ce phénomène parce qu'il explique aussi beaucoup comment les cassois évoluent en forêt. Et je me demande parfois, enfin là encore, je me suis demandé parce que j'ai vécu pendant 2 mois sans miroir, si effectivement l'absence de miroir, l'absence d'avoir son visage réfléchi quelque part, ne permet pas, n'autorise pas cette. Ce n'est pas une confusion, mais c'est une fusion. Hein. Cette possibilité qu'ont les cassois de pouvoir s'identifier à un arbre ou à un oiseau, c'est que en fait ils ne sont, on est, que ce que l'autre nous rend, nous dit de nous à travers les relations qu'on entretient avec. Alors donc, une culture matérielle très, très éphémère, hein, tout est à base de bois, de fibres. Et qui montre combien les cassois, à la différence des gens de Madagascar décrits par Maurice Bloch, ne cherchent pas à transformer la nature pour contempler un beau paysage. Une place claire, comme chez les affamés. Donc, comment inscrire la mémoire dans un tel univers? D'ailleurs, la forêt se dit Mowa, qui veut dire base lointaine. Elle ne veut pas dire Mowa, n'est pas un contenant qu'on pourrait assimiler à l'écosystème. Un écosystème forestier où il y a en fait paradoxalement une profondeur temporelle qu'on ne vit pas au quotidien. Donc, une chose est certaine, c'est que chez les cassois, le paysage n'est pas une transformation matérielle du monde, de l'environnement. Donc, face à une telle complexité, comment peut-on isoler un paysage? Comment peut-on produire un point de vue et le reproduire et le transmettre? Quand tout est par essence éphémère. Et si donc nous cherchons un paysage, et si nous acceptons leur monde tel qu'il est, c'est-à-dire dans cette extraordinaire complexité, comment font-ils pour produire un paysage cassois? D'où mon postulat, était de penser que face à cette complexité, étonnante, étourdissante, le seul processus envisageable était celui d'abstraction, qui ne signifie pas exclusion de soi et du monde, Hein, ce n'est pas du tout l'exclusion. C'est simplement qu'il faut qu'on en vienne à épurer toute cette complexité. Parce qu'on va voir qu'il est justement le but, enfin ce que je crois avoir trouvé comme but au paysage Kasuwa, si ce que je vais vous dire est bien un paysage, c'est bien de restituer cette complexité. Et dans sa dimension relationnelle, donc écologique, où l'homme y est inclus. Et on verra davantage. Alors, là, je vais vous montrer un autre petit passage qui conforte. Cette proposition que j'avais faite l'année dernière sur l'abstraction, pour montrer qu'il y avait comme du figuratif et que bon, les processus étaient différents. Et cette année, donc comme je vous disais, j'ai beaucoup marché parce que les clans, il y a eu un processus de missionnarisation à la fin des années 80 et ils étaient tous sédentarisés dans un même village, une même station, Moussoula. Mais suite à l'exploitation forestière de leur territoire au sud et au bouleversement écologique qui en a suivi, on a créé une réserve autoproclamée, ce que la loi permettait, et il y a eu un élan, un retour, un repliement, repliement sur soi, et chaque clan à regagner son territoire clanique. Et ils viennent maintenant très rarement à la station, d'autant qu'il n'y a pas d'instituteur, d'autant qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a aucun service gouvernemental. Donc ils sont tous maintenant chez eux. Et ils construisent à nouveau, et cette année c'était le plus grand spectacle, leurs immenses demeures. De 30 mètres sur 20, où ils vivent à 50, 60, il y a beaucoup d'enfants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, l'idée, je devais découvrir une partie que je connaissais très mal, qui était à l'extrême ouest, une région karstique. Donc, j'ai commencé par cet extrême ouest, les montagnes, pour après revenir vers le centre, et j'ai traversé comme ça 6 territoires claniques. Un phénomène surprenant, c'est qu'ils ont un jeu de cordelettes que j'avais pu observer depuis longtemps, mais auquel je n'avais pas prêté trop d'attention. Je savais que les Kasuwa avaient un système de comptage très sophistiqué que je ne comprenais pas. Et ce système de comptage n'est utilisé que pour compter le nombre de palmes de sagoutiers pour faire la toiture. Et j'ai toujours espéré travailler avec un mathématicien, et bon, je ne l'ai pas fait. Parce que vraiment, je ne comprenais pas. Ça m'échappait complètement. Et le système de cordelettes, pour moi, était assimilé à ce système de comptage. Je ne le comprenais pas non plus. Alors, je suis dyslexique, ça peut-être, mais bon. Et cette année, où que j'allais, tout le monde jouait à ce jeu de cordelettes. Et c'est un jeu interactif. On peut être seul, à deux, à trois, à quatre. Mais pas que les jeunes, les personnes âgées, les adultes, tout le monde jouait à la cordelette dans les grandes demeures. Et donc, forcément, cette fois-ci, je m'y suis intéressée. Parce que vous allez voir le processus, enfin le mouvement. Enfin, je vous laisse regarder et... ça marche. Pourquoi ça marche pas? Ah, j'ai pas le son non plus. Bon. Ah oui. Alors ça c'est un exemple, je vais vous en montrer d'autres. Donc là elles sont deux, il y a une troisième, la petite dernière qui intervient. En fait, au début, elles vont nommer des animaux, de la forêt et des plantes, et leur jeu de cordelettes correspond à ces noms qu'elles peuvent choisir. Il y a une certaine alternance, une certaine liberté quand même. Sauf qu'il faut, là, le jeu consistait à ce que les animaux commencent par Yanoko. Et après, avec les jambes, donc tout le corps est impliqué, hein, vous avez vu, elle restitue le monde de la forêt, etc. Et là, on a mangé ici, et là, on a fait ci. Et à la fin, donc, on va se baigner dans la rivière, on se nettoie. Imaginez, vous ne comprenez pas le cassoir, vous voyez ça, et on vous dit, mais bien sûr, c'est ça. Parce que, et vous allez voir les autres. Parce que si un adulte vient ou quelqu'un de plus expérimenté approche ses enfants, s'il voit que l'un d'entre eux se trompe, on va le corriger. Ah non, 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 là, c'est comme ça. Là, tu n'as pas mis ton doigt là où il fallait, etc. Attendez, parce qu'en fait, je pensais que c'en était un autre, là. Comment j'ai fait pour venir ? Alors là, par exemple, la petite fille a reproduit un chien qui chasse un cochon. Donc, comment on recontinue ? Comment fait-on ? Pas évident, hein, PowerPoint, en fait. Parce qu'il y avait un autre exemple. Ah, ça marche plus. Bon, j'ai l'impression que... Donc voilà, regardez-le quand même maintenant, vous savez. C'est un chien qui est fou.
Oui.
Et à la fin, le chien tue le
chien.
Alors là,
c'est un chien.
C'était un panier. La femme qui le fait là, doit avoir 50 ans. D'ailleurs, c'est une sorcière. Et en fait, c'est comme avec le reste de la faune. On est humain, mais on peut être sorcier.
Allez, bien, allez.
De manière intelligente.
Ni de la diabète.
Voilà.
Quand il y a les mères.
Qui est ma Dima?
Vous voyez que tout le monde intervient. Donc ça va de on figure autant donc un être enfin un arbre donc une activité mais ça peut être aussi des humains. Là, le dernier, mais bon, ça va être trop long. Il s'agit de raconter comment un vieux monsieur et une vieille dame sont partis en forêt, etc. Ils sont tombés. Enfin bon. Et donc là, l'important, enfin, ce que me révélait ce jeu, et par rapport à ce qui va suivre sur la notion de paysage chez les Cassois, c'est bien sûr le pouvoir de la narration. Dans la mesure où on ne peut pas se passer des mots pour comprendre ce qu'ils font et pour se figurer ce qu'ils veulent représenter. Alors, ce jeu, cette possibilité de partir qu'avec un jeu de cordes, de lignes, de points précis, me conforter, donc, comme je vous le disais, sur cette capacité de pouvoir abstraire du figuratif des lignes et des points, hein, comme Kandinsky ou n'importe qui, enfin, de peintres abstraits. Et qu'il y avait une certaine structure admise pour comprendre le sens de ces mêmes lignes. Ou pourquoi telle ligne peut représenter quelque chose et que tout le monde partage ce sens. Et aussi, aussi petite soit-elle, ces jeunes filles manifestent le goût de bien faire les choses et que ça soit bien. Il y a aussi une esthétique inscrite dans ce jeu de cordelettes, d'où les personnes, tout le monde y joue et essaye de devenir chevronné dans cette matière. Et on partage beaucoup. Et aussi, chose qui est très importante, c'est que tout le corps peut participer, du pied à la tête. Alors maintenant, voilà, disons que on approche peut-être d'un processus, d'une manière de structurer des lignes en tout cas. Et je vais passer directement à l'objet du paysage chez les Cassois, qui est en fait décrit dans la cérémonie du ballot. Tout à l'heure, on avait l'image de ces danseurs. Je vais vous la remettre. Donc, je vais vous décrire cette cérémonie vous annonçant donc que c'est à travers cette cérémonie où j'ai pu vraiment isoler ce qu'on pourrait appeler un paysage cassois. Et nous reviendrons après sur les processus qui sont mis en exergue au quotidien pour produire, pour en arriver à cet aboutissement, à cette performance, qui est une performance artistique, au cours de cette cérémonie. Parce que je crois l'avoir vécu. Je ne sais plus où ils sont. Voilà. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment. Je suis désolée. Vous les voyez ?
Oui.
Bon. Donc, cette cérémonie a lieu donc dans une grande demeure. Qui n'est éclairé que par les foyers de feu. Ils sont recouverts d'ocre rouge avec des intersections, les intersections peintes en noir. Au dos, ils portent une coiffe qui imite la cape que portent les veuves en écorce frappée. Mais là, c'est tressé. Donc là, vous voyez, sur les côtés, ils ont des plumes de paradisier rouge. En haut, ils ont une coiffe avec de la fourrure sur laquelle est piquée des plumes de cacatoès blanc. Hein, et il y en a des rouges, avec des perles rouges. Derrière, donc, ils ont des franges de palmiers. Aux pieds, ils ont, aux chevilles, ils ont des hochets faits en carapace d'écrevisse. Parce que dans, au Mont Beaux-Avis, on a la chance d'avoir des écrevisses qui sont grandes comme ça. Le but de cette cérémonie, et elle a été merveilleusement décrite par Édouard Schifflin, qui a travaillé également chez les Kaloulis, le but de cette performance est d'émouvoir le public et de conduire le public à pleurer. Alors, et plus particulièrement, généralement, les hôtes. C'est-à-dire que ces personnes, ils sont deux, ils sont toujours en double, sont invités chez un autre clan. Et leur performance va consister à évoquer un défunt de ce clan qui les a invités. C'est très sobre. Il y en a un, donc les deux sont assis face à face. Et d'un seul coup, un se lève, très lentement, se tourne, donc il fait dos à celui qui reste assis, et d'une voix d'outre-tombe, mais ce n'est pas le mot, plutôt de cette profondeur de champ invisible dont je parlais tout à l'heure dans la forêt, il va commencer à retracer l'expérience de vie du défunt. La particularité, c'est qu'il prend le point de vue d'un oiseau, c'est-à-dire d'un point de vue vertical, qui ne peut être celui de l'humain, donc. Et ce changement de perspective est très émouvant. Et donc la voix évoque cette position qu'a l'oiseau, donc qui est dans la cime. Et donc de ce point de vue, le chanteur, performeur, donc je ne sais pas comment, va décrire un point, un lieu, où le défunt avait ouvert un jardin. D'ailleurs, on voit encore les fruits du pandanus qu'il a planté, etc. Et en même temps, il va l'appeler et il y aura toujours de la solitude, l'écho et la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien mort et donc il n'y a plus d'humains qui peuvent discuter avec lui. Et ainsi, ego, ego, un paysage va naître de ce chant, il y a des ruptures, hein, le danseur peut se rasseoir, laissant l'autre danseur se lever pour évoquer un autre mort, etc., ou une autre morte, hein, ou un enfant même, hein, c'est pas que personne âgée ou adulte. Et alors, toujours avec ce rythme des hochets, qui marque une certaine... temporalité, oui, certaine. Il y a aussi l'eau, le son des franges de palmiers, à force de faire comme cela. C'est vrai qu'on a l'impression de voir les cascades, ou de l'eau dégoulinante, comme dans les cascades. Et les plumes, bien sûr, qui sont d'une très très grande douceur, les plumes de paradisier, là, les rouges. Et donc, elles ont un mouvement très doux, vraiment très doux. Et donc, au bout d'une heure, ça peut durer une heure, se dessine à nous, par les mots chantés, hein, un paysage. Et vraiment, on s'imagine un paysage. On s'imagine l'arbre, on s'imagine d'un seul coup le jardin, on s'imagine d'un seul coup la montagne, avec cet écho de la solitude. Et cela va être tellement émouvant que vous allez provoquer les pleurs, bien sûr, de la famille du défunt, mais aussi ceux de l'ethnologue, qui est aussi ému. Et là, c'est le succès de la performance, parce que le pleur est l'émotion du double cosmologique. Donc, par cette performance, le danseur, par ses mots chantés, avec son rythme, cette symbiose, même écologique, vu que toute la forêt est portée sur cet individu, cette performance va transcender, littéralement, les auditeurs, et faire en sorte que d'un seul coup, pendant cette cérémonie, la dualité qui les habite entre être phénoménal et leur double, qui n'évolue qu'au cours du rêve, là, ils le vivent en entier et ensemble, enfin, je veux dire, en entité. Et donc, les pleurs sont le témoignage de cette unité, de cette transcendance, comme quoi, donc, le paysage était bien décrit, bien réalisé, et qui restituait bien le tempérament et les comportements du défunt, ses rencontres avec les êtres de la forêt, parce qu'il peut avoir aussi rencontré des oiseaux, tout est possible. Et donc, les parents ou qui le veut, va prendre une torche en bambou enflammée et brûler le danseur aux épaules. Ce qui va laisser une trace, bien sûr. Bon, ils se mettent une résine pour se protéger un peu, mais enfin, généralement. Et on voit les cassois, hommes et femmes, parce que les femmes font aussi cette performance, avec des traces sur les épaules, qui sont censées, bien sûr, inscrire le paysage sur le corps de ces hommes, ou de ces femmes qui ont fait la performance. C'est la mémoire qui porte sur eux la mémoire des paysages qu'ils ont chantés. Et ça apporte après quand même aussi un certain, pas charisme, enfin une reconnaissance quand on se balade en forêt, qu'on voit un homme ou une femme qui a des épaules brûlées, bien sûr, bon, on le respecte. Donc, pour moi, la forme de paysage, si paysage cassois existe, serait celle-ci que l'on découvre au cours de la cérémonie dite du palo. Mais alors, enfin, si je pense que c'est vraiment la figure du paysage, selon les cassois, elle permet pas, enfin, cela ne nous explique pas pour autant comment ça se crée, comment ça se partage, comment c'est... Et en fait, il faut revenir à la forêt, il faut revenir marcher en forêt. Et cette fois-ci, j'ai toujours été accompagnée par un cassois qui est reconnu pour être l'un des meilleurs performeurs de ballot. Et il était tout le temps avec moi, et j'étais tout le temps avec lui, mais on était avec d'autres. Hein, quand on traverse un territoire clanique, on est généralement 10, 15 à se suivre, les enfants compris. Et je réalisais très vite qu'il était lui-même très attentif à tout ce qui se passait, non seulement en forêt, mais dans les relations qu'entretenaient les gens qui marchaient avec nous. aussi beaucoup plus à mon égard, parce que comme j'étais fatiguée, bon, plus fragile, etc., je ne marchais plus comme avant, donc tous s'inquiétaient, oh là là, elle va mourir. Et j'ai réalisé ça, parce qu'ils ont eu peur, ils avaient peur. Pourtant, j'ai quand même marché pendant 2 mois. Mais bon, ils avaient cette crainte. Et je réalisais qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait ou qu'il y avait quelque chose de spécifique ou moi qui m'arrêtais, ou... tout de suite, des mots, on ajoutait des mots et il ajoutait des mots. Et il expliquait. Comme s'il réifiait l'instant. Et il attendait surtout qu'il y ait le plus de monde possible, que tout le monde nous entoure quand il allait lui parler. Quand il allait en fait transformer ce vécu en une évocation, déjà. Et c'était très agréable. Parce que tout instant ainsi partagé, j'avais le sentiment, moi, le privilège, de participer de l'histoire de ces gens. Enfin, je veux dire que ça allait se garder en mémoire. Et la dernière expérience, et je vais finir là-dessus, parce que c'est là où je boucle la boucle. C'est avec l'autre. La plus forte... pas la voir en entier. Voilà. Donc en fait, bon là c'est tellement, je sais pas si là on voit ma, oui, on avait marché tout le long là, enfin tout le long. Vous voyez, il y a des montagnes, on est monté là-haut, et après bon on est redescendu. Et on revient et on passe par une montagne. Où on a ce point de vue. pour vous dire que pendant toute cette marche, je n'avais pas de point de vue. Enfin, nous n'en avions pas. C'est-à-dire qu'on réalisait qu'on marchait sur une montagne, qu'on montait une montagne, etc. Mais on ne voyait pas à quelle altitude, on n'avait jamais eu de point de vue. Et là, c'est la première fois, on s'arrête, donc, on rentre, et on a ce point de vue sur notre passé, sur la marche qu'on a réalisée. Et, alors, grande exclamation, alors moi qui étais fatiguée, je n'avais pas du tout envie de m'arrêter, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer manger. Et non, eux, ils s'arrêtent. Bon, ils s'arrêtent. Et là, lui, ce performeur, commence à décrire, oui, regarde, c'est là où nous étions, vous rappelez ou tu te rappelles, ça dépend qui est à côté de lui, etc. On a mangé ça, et il rit, et alors les gens sifflent, il y a vraiment une émulation, et puis tout exprime l'émotion, en fait. Donc ils sifflent, ils s'exclament, ils sont bouleversés. Cette vision les bouleverse. Mais c'est très très fort. Et en fait, ça participe aussi du fait qu'elle est soudaine. On ne s'y attend pas non plus. On oublie très vite et on ne s'y attend pas. Et la vision, cette vision soudaine de ce qui a été fait par le passé, les bouleverse au sens où ça bouleverse leur condition d'être. C'est que d'un seul coup, cette vision a quelque chose de réflexif qu'on n'a pas en forêt. Elle leur offre une nouvelle perspective et une nouvelle perspective d'être. En fait, ils ont presque la position des esprits qui voient de l'autre côté. Eux qui sont toujours de l'intérieur, d'un seul coup, ils ont une vision extérieure. Et c'est comme l'oiseau qui décrit les activités du défunt, que décrit le défunt. C'est-à-dire que soudainement, cette vision apporte au cassois une distanciation dont ils n'ont pas l'habitude. Et qui relève comme du rêve. C'est un songe. C'est que là, d'un seul coup, on visualise ce que l'on a vécu. On a d'un seul coup un point de repère, un point d'ancrage de ce qu'on a vécu. Donc, il n'y a pas du tout de qualitatif. On ne va pas dire c'est beau, on ne va pas dire que c'est bon. On est juste absolument bouleversé. Et on va employer des mots qui soient facilement partagés, des émotions aussi, les rires. Parce que précisément, cet instant, comme d'autres en forêt, constitue le point d'ancrage de la mémoire que va chanter le performeur au cours de la cérémonie du ballot. Et au même titre, cette vision est transcendantale, au même titre que le chant de cette cérémonie. Et en fait, c'est ce que la seule manière de perpétuer, et c'est pour ça que ça manquait en fait dans mon titre, ces paysages éphémères, c'est par la narration. Mais pour en revenir aussi à la puissance et au rôle non seulement quotidien, mais acoustique et esthétique du son, des chants, car ceci, enfin, ces bruits révèlent tout le système relationnel et leur monde, hein, révèlent à la vue. Les mots en soi ne suffiraient pas à transmettre aussi cet aspect transcendant, enfin transcendantal, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou en tout cas la dualité du monde est unifiée, et il faut que ça réponde également à un canon acoustique. Donc lors de la cérémonie du ballot, on emploie des noms communs, mais c'est la manière de les chanter, de les amener, de les conjuguer, de les mettre côte à côte, qui va provoquer les émotions tant attendues. Et les émotions que vivent les Kassois face à une telle vision soudaine relèvent de la même émotion que le pleur. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette extériorité intègre, enfin, ils l'incorporent. Je veux dire, ils ont la chair de poule. Il faut que ça soit incorporé totalement pour que révéler l'âme, enfin, le double qui est en eux. Donc, ma conclusion serait que pour les Kassois, le paysage serait plutôt visage, au sens de champ, oui, sens de la vue. Une sorte d'extension de leur être, une figuration abstraite de leur existant, au pluriel. Donc un paysage-visage dont seule la mémoire des mots transmis selon un agencement sonore bien particulier et précis, dessinerait les lignes et les contours d'une chambre noire avec vue. Cette extension, donc ce vœu transcendantal, je suis pas sûre que ça soit vraiment le terme, mais bon. Et par conséquent, atemporel, et au sens vraiment, au sens forestier du terme. Le paysage kassois, donc, incarne cette totalité impossible à appréhender par le seul sens visuel, du fait de sa complexité. Et on retrouve ici toute l'esthétique décrite par Stephen Feld et aussi Alfred Gell, ou la complexité restituée par le son, le mouvement, les lignes, et restitue l'expérience de ces individus qui vivent en forêt.
Merci.